Bienvenue dans l'émission Fréquence follement curieuse. Nous sommes un collectif d'usagers de la psychiatrie qui réfléchissent ensemble sur les troubles psy, leur prise en charge et le regard porté sur nous. L'émission du jour est un second volume sur le thème des addictions. Vous pouvez retrouver le premier sur le site de Canal B, rubrique Fréquence follement curieuse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alix et Luc. Ils nous évoqueront leur parcours avec l'alcool et le cannabis. Je parlerai aussi benzodiazépines, puis Anne-Pauline nous partagera ses recherches sur les addictions aux réseaux sociaux. Enfin, Yann parlera des politiques gouvernementales, principalement autour du tabac. Il nous fera aussi un point actualité sur les événements à venir en santé mentale à Rennes. Assez dit les amis, vous pouvez vous présenter ?
C'est Yann, donc j'écris des articles sur la santé mentale à Rennes et mes articles sont publiés sur le site infopsyrennes.org.
Bonjour à tous, Anne-Pauline, je suis usagère en psychiatrie. Je m'interroge sur les questions de santé mentale dans la société et je suis artiste-auteur. Et toi, Béryl ?
Usagère en psychiatrie. D'ailleurs, depuis la dernière émission, j'ai arrêté de fumer, merci la cigarette électronique. Aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes compliqués, donc n'hésitez pas à vous munir de votre meilleur plaid. Alix, Luc, je me tourne vers vous, tous deux concernés directement par l'addiction. Toi, Luc, tu es un homme actuellement âgé de 25 ans, en formation préqualifiante dans le design. Tu es passionné par le dessin. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce thème plus tard. Alix, tu es une personne non-binaire de 24 ans, salariée dans l'éducation populaire et aussi artiste, photographe. Luc, Alix, pour vous, c'est quoi une addiction ?
Alors pour moi, une addiction, c'est beaucoup de choses. Tu prends quelque chose et à partir du moment où ça te revient en tête et où tu ne peux pas te passer de cette chose et que c'est quelque chose qui est récurrent dans ta vie et sans ça tu te retrouves dans une situation très angoissante, pour moi ça se situe dans l'ordre de l'addiction. Et des fois c'est des choses qui sont matérielles et des fois c'est facile de parler de drogue, d'alcool, de drogue douce, de drogue dure. Moi je dirais que ça part aussi de plein de trucs. Il y a l'addiction au sport, il y a l'addiction à la sexualité, il y a l'addiction à plein d'autres choses.
Aussi ça peut être une forme d'obsession ou je sais pas, imaginons ça fait un moment que t'es clean. Et il suffit vraiment de n'importe quel facteur pour que ça te refasse plonger. Et là, ça repart de plus belle, limite, ça repart pire comme c'était avant. Enfin, il y a vraiment un truc où une addiction. Moi, j'aime bien prendre cette image-là du château de cartes, où imaginons, t'es dans un temps de clean, et en fait, tu construis ton château, hop. Et en fait, plus tu montes, et plus tu vas loin dans ton clean, et plus c'est compliqué, et il suffit vraiment d'une toute petite pichenette, et tout s'écroule. Et t'as l'impression que c'est la fin, que tu te dévalorises, ouais, l'addiction, c'est que ça, c'est la principale dans ce que je suis. Mais sauf que non, il faut se dire que ça arrive, il y a des moments où on rechute, il faut pas se laisser abattre, il faut juste reconstruire ce château de cartes. Et à force, on apprend un peu la recette de comment on fonctionne en étant clean. Et après, voilà, il y a des outils qui peuvent aider et tout. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nommer le ou les produits par lesquels vous êtes concerné ?
Moi, c'est compliqué. Qu'est-ce que je n'ai pas pris, finalement ? Moi, j'ai eu une consommation d'abord de tabac très très tôt, puisque j'ai commencé vers 11-12 ans, très vite par volonté d'apaiser des angoisses, je me suis tournée vers le cannabis et aussi par intérêt amical et récréatif. Puis après, j'ai commencé les prods à 15 ans. Et en fait, par arrêt, par sevrage de prod, quand j'avais peut-être 17 ans, je suis tombée dans l'alcool parce que ça m'a permis de me calmer par rapport à mes crises de manque d'amphétamine et de cocaïne. Et voilà, j'ai eu une addiction aux amphétamines pendant longtemps, à la cocaïne pendant longtemps, à l'alcool pendant longtemps, au cannabis pendant longtemps. Et j'ai été clean du cannabis en dehors de moments récréatifs pendant 2 ans. Et j'ai été clean d'alcool pendant 6 mois. Et là, actuellement, je suis en rechute. Je fais des applaudissements, on les entend pas.
Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est des prods pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce jargon?
C'est vrai que j'utilise un jargon un peu particulier. Prod, c'est produit, c'est un mot qu'on utilise en général pour parler de drogue dure. Ce qu'on peut appeler généralement des drogues dures, mais c'est un terme que j'utilise pas. Parce que pour moi, il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, il y a des drogues tout court, en fait. Tout est dans la consommation et dans le fait d'être addict ou de ne pas l'être. Voilà, les prods, c'est des produits addictifs.
Je vais me permettre de rebondir. Je suis entièrement d'accord et ça me fait plaisir de rencontrer une autre personne addict aussi qui part de ce principe-là, qu'il n'y a pas de drogue douce, et qu'en fait, il n'y a pas à les hiérarchiser, parce que si on les hiérarchise, en fait, ça permet des moments où on s'autorise de « Ah bah tiens, je vais consommer par exemple du cannabis parce que c'est une drogue douce, ça va rien me faire, je vais pas consommer de drogue dure pour éviter parce que c'est plus catastrophique entre guillemets, alors que non, c'est des drogues, elles sont toutes pires les unes que les autres. Voilà. Après, c'est peut-être plus au niveau des répercussions sur le long terme où là, ça peut être différent. Par contre, mais pour moi, c'est pas une comparaison, c'est autre chose. Je n'arriverai pas à mettre deux mots dessus. Hein. Du coup, pour revenir à ta question, moi, mon produit, c'est le cannabis. Voilà. Et je suis en rechute aussi actuellement. Bienvenue au club. Voilà. Vaut mieux en rire, clairement. Ouais. Mais voilà.
C'est vrai que je vous rejoins sur l'aspect que, pour moi, différencier les drogues dures des drogues douces, en fait, n'a pas d'intérêt, parce que on voit qu'il y a des personnes, c'est d'ailleurs ce qu'on a dit dans la dernière Addiction volume 1, c'est que parfois une personne tire une bouffée de cannabis et ça peut aller déjà vers une pathologie psychiatrique.
Ça me fait rire parce qu'en fait je sors directement d'un rendez-vous en addicto avec un psychiatre, Big Up, qui en fait on parlait de mes addictions, parce que moi mon problème actuel c'est d'arrêter l'alcool, qui est ma plus grande addiction, et en fait je consomme du cannabis mais pour calmer mes crises d'angoisse, et en fait je l'ai regardé et je lui ai dit non mais pour moi le cannabis n'est pas une addiction puisque ça me calme, ça n'a pas d'effet négatif dans ma vie et j'arrête quand je veux. Ce qui est effectivement le cas, hein. J'arrête quand je veux, j'ai arrêté pendant 2 ans. C'était pas un problème pour moi, j'en voyais au quotidien autour de moi, j'en consommais pas nécessairement. Et ouais, il m'a regardé dans les yeux d'un air. Alors comment vous dire ? Si, c'est une addiction. Et en fait, c'est pas parce que c'est une drogue douce que c'est un truc qui te fait pas forcément un effet où tu vas te sentir désastreux après que ça veut dire que c'est pas une drogue dure et que c'est pas une drogue de laquelle tu peux être complètement addict et qui peut te détruire.
Exactement, et puis même les drogues ont plusieurs fonctions dans la façon de les consommer et de la raison pour lesquelles on les consomme. On l'avait vu dans Addiction volume 1, il peut avoir une fonction un peu autothérapeutique, ce que tu viens de décrire, les fonctions un peu hédoniques, donc plutôt récréatives, enfin c'est des fonctions personnelles à chacun. Je vais vous demander, comment est-ce que vous avez su que vous souffriez d'addiction?
En soi, il y a des symptômes qui ne trompent clairement pas. Je vais donner par exemple, dans mon cas, par exemple, quand je suis dans un temps de clean très long et que je sens que mon corps commence à évacuer tout, mais d'un côté, il m'envoie ce signal de « tu es clean », ça va être encore plus compliqué de résister à l'envie de reconsommer. Et moi, je sais que par exemple, quand vraiment, enfin, les moments où j'avais plus d'argent et que du coup, je devais ne plus consommer parce que je pouvais plus tout simplement, je faisais rien. Enfin, vraiment, je morfondais. Et le moment où je savais que j'allais reconsommer, j'avais l'impression de revivre. Vraiment, c'était. Il y a plein de petits fonctionnements comme ça où il faut écouter son corps, sa tête, parce qu'en fait, il y a plein de signaux qui nous envoient, que ce soit en clean ou quand on consomme, mais il faut s'écouter là-dessus. Voilà. les petits et après c'est comme ça. Après bon voilà, c'est aussi comment on est quand on consomme, l'état d'esprit, ou est-ce qu'on va se rendre compte de comment on réagit. Et ouais.
Ben moi je crois que j'ai toujours su. Je crois que c'est le fait que je sois, c'est comme le fait que je sois gay, hein. Je suis née dedans. je suis née addict et queer. Je sais pas, je pense très vite. Hein. En fait, comme j'ai eu une vie très compliquée très tôt, j'ai très vite su que j'allais avoir besoin de palliatifs, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à très jeune, dès que je voyais de la drogue, je savais que je voulais aller vers, parce que je savais que ça calmait des gens, que ça leur faisait quelque chose qui les sortait de la réalité. Et moi, ma réalité, c'est quand dès mes 10-12 ans, je voulais plus y être. Donc je pense que très vite, j'ai su que c'était des... Je pense que j'ai pas réalisé au début que c'était des drogues. Mais quand j'ai réalisé... à quel point ça c'était récurrent et que j'en avais besoin et que je pétais des câbles quand il fallait que je m'en passe. Voilà, il y a des réflexes qui trompent pas. Puis à un moment, faut arrêter de se mentir, quoi. Faut être. En fait, on peut être conscient d'être addict tout en ayant des rechutes, tout en s'en voulant. Quand on s'en veut, ouais. On peut consommer peu. C'est ce que m'a dit aussi mon addictologue ce matin. On peut consommer peu et être quand même addict. On peut consommer une fois par semaine et être quand même addict. Voilà.
Mais il y a un peu ce truc aussi où les gens se leurrent. Par exemple, quand j'ai été en clinique pour commencer un début de soins par rapport à mon addiction, j'ai rencontré une personne qui... elle, c'était « Ah mais moi, le cannabis m'aide à faire des choses. » Mais sauf que non, ça, c'est un signe d'addiction qui ne trompe pas aussi. À partir du moment où tu as besoin de la substance pour faire des choses, bah, t'es addict. Hein. Et là, encore une fois, voilà les signes qui ne trompent pas.
Et dans ce cas-là, c'est que ce que je peux rajouter, si je peux, mais c'est que si dans ce cas-là, tu as besoin de tant de produits, ou tu as besoin d'un produit, ou tu as besoin de si en fait, ta vie, elle est si dure que tout ce que tu peux faire, c'est que le vendredi soir, te mettre une caisse jusqu'au dimanche, parce que tu as besoin d'oublier ta semaine, c'est que peut-être va consulter, mon pote.
Et je voulais vous demander... Justement, au niveau de ces signes, est-ce que vous pouvez préciser les signes qui ne trompent pas ? Vous en avez déjà dit quelques-uns. Donc le fait d'avoir besoin, par exemple, d'un produit pour faire une activité, le fait, sans le produit, ressentir une sorte de vide, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres signes que vous percevez ?
Il y a un peu cette chose-là aussi. Je sais pas si ça répond à la question, mais cette chose, en fait, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas au clair. Enfin, moi, je sais que là, actuellement, quand je reconsomme, je sais que je ne suis pas moi-même, que je suis totalement dans le flou, en fait, techniquement, et pas au clair avec ce que je suis vraiment, mes envies. Il y a aussi cette chose où... après, c'est aussi l'aide que j'ai reçue en allant au Narcotique Anonyme, où il y a cette chose, il y a un réflexe de... on n'est pas honnête avec nous-mêmes aussi. Il y a un peu cette chose où quand on est en consommation active, c'est-à-dire consommer tous les jours... On se ment à nous-mêmes, on ment à notre famille, et il y a cette chose où on est toujours prêt à tout pour avoir plus de conso, quitte à mentir.
Ouais, mais il y a un truc que j'ai arrêté de consommer de l'alcool pendant 6 mois, ce qui a été une chose absolument dingue dans ma vie, puisque je n'avais jamais arrêté de consommer de l'alcool depuis mes peut-être 17 ans. J'ai arrêté donc J'ai arrêté pendant 6 mois à mes 23 ans, donc ça fait quand même un sacré parcours d'alcoolique. Moi, quand j'ai arrêté, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte qu'en fait les gens n'avaient pas le même rapport que moi à l'alcool, et ça a été une découverte. Alors que ça fait des années que j'intellectualise énormément moi, mon ressenti, ma psyché, mes addictions. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, et en fait j'avais jamais compris pendant 24 ans, je n'avais jamais compris qu'en fait les gens en face de moi, quand je leur parle de l'alcool et que je leur dis que j'ai pas de seuil pour être bourré, et qu'à partir du moment où je ne suis pas en blackout, c'est que je n'ai pas la dose d'alcool qu'il me faut dans le corps, ils sont en mode genre attends, mais moi je bois 3 bières et je me sens pas bien et j'arrête. Et je suis là en mode, comment ça, tu te sens pas bien? Enfin, je veux dire, c'est que quand t'es en blackout que tu te sens pas bien. Enfin, c'est pas... Et en fait, non, les gens n'ont pas le même rapport que nous à l'addiction. Et ça a été un déclic de dingue de me rendre compte qu'en fait, non, dans ma tête, ça se passe pas comme dans la tête des autres. Ça ne fonctionne pas de la même manière.
Et dans votre consommation, justement, avez-vous vu des bénéfices ou des fonctions à certains moments à consommer tel ou tel produit?
J'ai perdu le fil. Est-ce que tu peux redire la question, s'il te plaît?
Il n'y a pas de souci. Est-ce que, dans le fait de consommer un ou des produits, vous avez déjà ressenti en fait des bénéfices ou des fonctions utiles? Tout à l'heure, par exemple, tu en parlais dans le fait de cette personne qui avait besoin de fumer pour agir.
Je sais que moi, j'ai surtout ça avec le dessin, où en fait... si je ne consomme pas, je ne vais pas dessiner, puisque mon cerveau a associé fumer égale être inspiré. Totalement à leurre, hein. Mais cette chose où vraiment... Pourtant, j'en suis conscient, hein, mais je continue encore dans ce truc de « il faut que je consomme pour être inspiré, sinon ça ne fonctionne pas ». Alors que c'est faux. C'est faux parce que si, même en consommant, je dessine, l'inspiration, elle est là, c'est-à-dire que clean, l'acquis, il est là. Mais c'est ce voile de... je vais pas bien, les choses qui m'inspirent, c'est pas très joyeux, donc je vais fumer pour essayer de trouver d'autres sources d'inspiration, mais c'est totalement faux. C'est...
Ouais, alors moi, par rapport à l'alcool, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est un effet qui se coule. L'alcool, moi, j'ai re-rencontré l'alcool après 6 mois, donc en décembre dernier. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. J'avais oublié à quel point je pouvais autant tromper les gens pour ça, à quel point genre, je pouvais tout faire pour ça. Ce qui est du coup le truc avec lequel je deal en ce moment, je m'occupe de en ce moment. Mais moi par contre, en termes de bénéfices, du coup l'alcool pour moi, comme il y a cet effet qui se coule, je dirais pas qu'il y a un bénéfice à un moment. Je sais que je me sens bien avec l'alcool, mais je sais que c'est pas sain. J'en ai déjà conscience même quand je suis en train de consommer. Là où le cannabis... Bon, les prods, c'est encore autre chose pour moi. Les produits, les drogues dures, ma consommation, elle a été vraiment dans une recherche d'autodestruction. Donc là, pareil, on peut pas vraiment y tirer un bénéfice. Mais dans la consommation du cannabis, moi, ben en fait, le cannabis, ça me permet de me calmer. Ça me permet de pas aller dans tous les sens. Ça me permet de pouvoir me poser dans mon lit le soir, de regarder un truc con et de pas avoir ma tête qui me dit « T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, tu dois faire ça. » Tu t'es pas préoccupé de ça, t'as ce mail, t'y as pas répondu aujourd'hui. Et en fait, ça éteint toutes ces voix et t'es juste là en mode genre, le calme.
Après, justement, c'est ça qui est intéressant parce que pour nous qui sommes addicts, par exemple avec le cannabis, il y a ce truc où ça anesthésie, c'est un effet positif, mais c'est pas sain parce qu'il y a ce truc où vraiment on veut taire les voix dans nos têtes parce que ça nous parasite. Mais en soi, c'est plus une petite couverture qu'on va mettre sur notre tête pour... l'image est assez drôle.
Mais, ou voilà. Sur une plaie, je sais pas.
Encore une fois, c'est un leurre où on croit que c'est positif, mais non. Et c'est là où la drogue arrive vraiment à avoir un impact sur notre psyché, où même lui, il nous la met à l'envers. Pour avoir une dose.
Je précise que ma question ne voulait pas faire la promotion des drogues, le but.
Si je peux rajouter quelque chose, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas rentrer dans la diabolisation de la consommation de produits, mais qu'en fait la consommation de produits, elle peut être saine si elle est encadrée. Si elle est encadrée par des professionnels, des addictologues, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des infirmiers, parfois des centres d'appel, parfois... En fait, on peut consommer un produit et être aidé. Et toujours le consommer, hein, parce que moi, mon médecin ce matin me disait qu'il avait une quantité de patients qui venaient le voir régulièrement et qui consommaient toujours. Et en fait, c'est pas grave de consommer. Ce qui est grave, c'est de pas faire attention à comment on gère cette consommation.
Et donc aux conséquences potentielles aussi, je précise au niveau question et vocabulaire, vu qu'à un moment tu as dit je deal ça avec mes proches. Alix ne vend pas de stupéfiants. Alix voulait dire.
C'est pour ça que j'ai repris après pour dire ouais. Je m'occupe de ça. Non, je, deal est un mot anglais pour dire je m'occupe.
Je gère.
Je gère.
Je gère les relations du coup avec avec les gens. Je préfère préciser.
Je ne vends pas de drogue.
Et au niveau ouais des bénéfices et des fonctions, parce que les chercheurs en ont trouvé trois principales de mémoire. Il y a la fonction donc sociale qui est pour avoir un lien plus facile avec les gens, la fonction hédonique, être plus créatif, trouver le plaisir, tout ça, dépasser l'ego, ces choses-là, et la fonction thérapeutique, donc s'automédiquer, se soigner. Et c'est pour ça que parfois, par exemple, dans mon expérience personnelle, je me souviens d'un infirmier en clinique qui m'expliquait que pour un patient alcoolique, l'alcool, c'était clairement son rempart contre le suicide. Et que c'était un patient, en fait, que chaque personne doit avoir une approche spécifique. De toute façon, que ce soit dans l'addiction, peu importe la pathologie. Parce que là, pour le patient, en fait, l'alcool, c'était vital. Entre guillemets, pour le moment, que ça se trouve, ça allait bouger. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était vital. Et justement, je voulais vous demander, quels sont pour vous les risques liés à vos consommations, du coup, présentes ou passées?
En tant que personne, du coup, moi, je suis queer, je suis non-binaire, mais je suis perçue femme, beaucoup. J'ai toujours été perçue femme et ma non-binarité, elle est finalement assez récente. Du coup, mon addiction, mes addictions, je les ai vécues à travers le rôle de femme et surtout d'enfant. Parce que j'ai commencé mes addictions, je devais avoir 14 ans et je traînais dans les milieux techno à l'âge de 15 ans. Donc, les dangers aussi, moi, mon danger principal et ce qui m'a fait arrêter la consommation d'alcool, c'était en fait le danger des agressions sexuelles, des viols. Je sais pas compter le nombre de fois où, parce que moi j'ai vécu à la rue, j'ai vécu dans des foyers, j'ai vécu dans des squats. Je sais pas compter le nombre de fois où j'ai subi des agressions sexuelles, des viols pendant que j'étais inconsciente. Et y a ça, il y a le danger de se prendre une voiture en rentrant chez soi, il y a le danger de mourir d'une OD, il y a le danger de faire une crise d'automutilation, de suicide. C'est des mots qui sont durs, mais c'est des réalités. Il y a des dangers de mort. Moi, là, je suis en reprise de mes médicamentations et je vais sans doute finir en hospitalisation parce que mon colocataire est venu me voir et m'a dit en fait, j'ai pas envie de retrouver mort un matin. Et c'est le risque. Et c'est un risque quand on dans la consommation de cannabis pas nécessairement mais dans la consommation d'autres produits y compris de l'alcool qui est la drogue la plus répandue dans ce monde et le venin de cette société mais ouais c'est pas impossible de enfin je veux dire on les compte les gens qui se sont endormis bourrés ou sous prod et puis qui sont sous produits et qui du coup ne se sont jamais réveillés donc c'est pas un risque impossible.
De mon point de vue par rapport au cannabis c'est plus comment la consommation elle peut être tellement forte à tel point que par réflexe on se coupe des gens. Il y a vraiment cette chose, on est seul face à la consommation, face aux doutes, face au prisme négatif, parce que c'est ça aussi quand on consomme. Il y a vraiment cette chose où il suffit que on soit sur les réseaux sociaux, qu'on regarde un peu les news, que ce soit en France ou dans le monde, du coup on se met à être pas bien, parce que aussi c'est ça la consommation rend dépressif et répond aussi à un besoin de combler le vide et de combler aussi un mal-être. Plus ou moins fort.
Oui, et puis il y en a plein, en fait, des risques. Parce que, comme j'expliquais, même avec ce que des gens appellent drogue douce, alias le cannabis en star principale.
Et l'alcool aussi. Hein.
Et même
c'est fou qu'on considère l'alcool comme une drogue douce. Moi, ça me tue.
Non seulement, il y a pour l'alcool, il y a les risques sur soi, il y a les risques de gens qui conduisent alcoolisés, donc c'est dangereux pour les autres. Et puis même pour le cannabis, enfin en fait les drogues peuvent aussi être des déclencheurs de pathologies ou augmenter des pathologies. Et je voulais revenir aussi en posant une question un peu plus intime pour vous. Quelles sont les causes de vos addictions ?
à partir du moment où on est conscient de ça et qu'on veut se sauver et qu'on met en place des hospitalisations cliniques, suivies par un ou une psychiatre, un ou une psychologue. Désolé, je me suis perdu dans ma pensée, mais j'y arrive. Oui, c'est ça. Et du coup, avec ce biais-là, par exemple, moi, j'ai compris des petites choses où, par exemple, je sais que la séparation de mes parents, ça a été un déclencheur de pourquoi est-ce que j'ai commencé à consommer quand j'étais au lycée, par exemple. Ou par mimétisme, en fait, tout simplement. Hein. Cette chose où on a envie d'être accepté socialement par son groupe de potes et on va dire, pourquoi pas tirer ? Mais c'est un peu aussi une excuse pour se dire, je vais pas bien et je sais que ça apaise.
Moi, j'ai un parcours de vie très compliqué, en fait. J'ai un parcours de vie où j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle maltraitante, où j'ai fini à la rue à 15 ans, où j'ai fini en foyer, et où j'ai été autonome de mes 15 ans à tout de suite maintenant, quoi. Donc, en fait, quelle a été la cause de mes addictions ? Qu'est-ce qui ne l'a pas été, finalement ? Parce que, non, je pense que ça a été un effet boule de neige. Au début, je pense que vraiment, j'ai consommé du cannabis au début parce que ça me calmait. Ça me permettait de me sortir de mon quotidien dans lequel il y avait beaucoup de maltraitance. Et puis après, plus la vie avance, plus la vie devient dure, plus on va vers les drogues dures, finalement. Et puis après, quand il a fallu sevrer les drogues dures, l'alcool. Et puis voilà, quoi. Les traumas.
Si, je voulais rajouter aussi un autre élément. Aussi, une des autres raisons pour lesquelles je me suis mis à consommer, c'est aussi cette chose où... au niveau de ma sexualité et tout, j'ai mis beaucoup de temps à accepter qui j'étais réellement, hein, que je suis une personne queer en fait au final, et que en fait à part le harcèlement que j'ai pu subir quand j'étais au lycée par rapport à ça, que j'étais un mec, que j'étais maniéré, que j'avais une voix très aiguë, et aussi du coup ma consommation de cannabis est venue aussi dans ce truc de je n'arrive pas à savoir qui je suis. Le regard des gens, ça m'a toujours matrixé. Je sais pas quel terme je pourrais utiliser pour...
Fait flipper ?
Flipper, qui va vraiment travailler, mais dans le mauvais sens du terme.
Paranoïa, peut-être ?
Ouais, voilà, ce serait ça, en mode à rendre parano et en fait à ne pas m'accepter, à me cacher en fait pendant très longtemps, à refouler et.
Je me souviens d'un autre exemple aussi. Personnel, ou quand j'étais en formation pour être travailleuse sociale, un infirmier avait répété les mots d'une patiente qui, elle, était addict à l'héroïne, et pour elle, se shooter, c'était comme faire un câlin à sa mère. Et dans son histoire personnelle, il y avait eu beaucoup de carences affectives, et on voit qu'effectivement, le traumatisme dans les études peut jouer un rôle majeur dans l'addiction. Anne-Pauline, peux-tu me parler de tes recherches sur les applications et réseaux sociaux qui jouent sur nos pratiques addictives ?
Les machines sont devenues de plus en plus petites et mobiles. Elles nous suivent partout, sont à portée de main. En quelques secondes, le divertissement est accessible. Le téléphone est comme devenu une extension de soi.
C'est vrai, on l'a toujours à portée de main.
Lors de la dernière émission, nous avons parlé de capitalisme attentionnel. Nous avons développé les mécanismes à l'œuvre concernant la plateforme de streaming Netflix. Cette fois, il sera question plutôt des réseaux sociaux, des applications que nous utilisons quotidiennement. Ce sont de nouveaux réflexes. Les notifications nous informent de telle ou telle chose nouvelle, des actions d'autres utilisateurs et nous incitent à vérifier des dizaines de fois par jour notre téléphone et à ouvrir ses apps.
Est-ce que l'addiction au smartphone est reconnue ?
Aujourd'hui, l'addiction au smartphone ou aux réseaux sociaux n'est pas reconnue dans les manuels diagnostiques officiels. Seules deux addictions comportementales le sont. Le trouble du jeu vidéo et celui du jeu d'argent. Les spécialistes préfèrent parler d'usage problématique. Mais l'évidence est là. Sur les réseaux, tout est fait pour nous rendre accros. En fait, leur modèle économique consiste à nous maintenir en ligne le plus longtemps et le plus souvent possible. L'économie numérique repose sur l'injonction à la participation et l'extension de la présence des usagers sur les plateformes, explique Sophie Géhel, chercheuse en sciences de l'information et de la communication.
Que veux-tu dire, Anne-Pauline ?
Nous ne payons pas pour ça parce que nous ne sommes pas clients. Nous sommes le produit. Ce sont nos data, c'est-à-dire nos données personnelles et nos comportements d'utilisation, qui sont revendus aux entreprises qui placent leur publicité ciblée dans le flux des autres publications.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait si nous devions payer à l'heure ?
C'est déjà un peu le cas. Maintenant, pour être certifié sur une plateforme ou avoir du contenu exclusif, sur Instagram par exemple ou X, anciennement Twitter, il faut déjà payer.
Nous allons observer les éléments qui participent à nous maintenir connectés, car une fois de plus, ils sont devenus omniprésents et presque banals, alors que quelque part, ce sont des intrusions constantes dans nos espaces personnels, professionnels, intimes.
Tu peux nous refaire un rappel sur le capitalisme attentionnel ?
Oui, le capitalisme attentionnel, c'est l'hyper-rationalisation de la stimulation du désir. Des spécialistes neuromarketing évoluent sans cesse pour trouver des façons de plus en plus poussées de mobiliser cette stimulation du désir. Ils agissent sur les mécanismes physiologiques du circuit de la récompense et la dopamine, sur l'ergonomie des plateformes, des applis, qui sont conçues de manière à ce que l'on ait tout le temps envie de les manipuler. On parle aussi de dark patterns. Les interfaces sont volontairement conçues pour tromper ou manipuler les utilisateurs. En 2017, Adam Alter écrit « Les personnes qui créent ces technologies effectuent des milliers de tests auprès de millions de personnes afin de déterminer les ajustements qui fonctionnent, les couleurs d'arrière-plan, les polices de caractère, les tonalités audio qui maximisent l'engagement. Au fur et à mesure qu'une expérience évolue, elle devient irrésistible. »
Quel est le lien direct avec les addictions ?
La question de l'addiction se pose car les réseaux sociaux exploitent les failles de ce système cérébral fondamental chez les mammifères, le circuit de la récompense, qui est à la base de la motivation et du plaisir. Nir Eyal, spécialiste dans l'industrie du jeu et de la publicité, assume d'écrire dans son livre « Hooked » sur les stratégies qui favorisent l'attention des utilisateurs, qu'il s'agit de réprimer les zones du cerveau associées au jugement et à la raison, et activer dans le même temps les zones associées à l'envie et au désir. On comprend mieux pourquoi on zone devant de courtes vidéos de chats, de cuisine, de make-up.
On est tous et toutes pareils là-dessus. Le people, Tinder, les TikTok de danse, ou satisfaisants, ou même de plats qui donnent envie.
En parlant d'envie et de désir, quoi de mieux que le cœur pour symboliser notre attrait pour tous ces contenus ? Les cœurs sur Insta, YouTube, TikTok, les pouces levés sur Facebook, les flammes sur Snapchat et autres partages. Ce sont autant d'activations irrésistibles du circuit de la récompense, comme des bonbons pour le cerveau.
Tu as une référence pour accompagner ta métaphore du bonbon ?
En 2016, une psychologue américaine, Lauren Sherman, a pu mesurer que quand certaines de nos photos reçoivent beaucoup de cœurs, l'activité du noyau accumbens, une structure cérébrale au rôle central dans le circuit de la récompense, augmente. Le neuroscientifique Guillaume Sescous décrit « L'hypothèse est que quand on ouvre son téléphone, qu'on voit 300 likes après un message posté, il y a une libération de dopamine quasi instantanée, comme lorsqu'on gagne une somme d'argent ou, toute proportion gardée, quand on consomme de la cocaïne.
Le bonbon est en fait rempli de cocaïne. Tu peux développer ?
Comment refuser quand on nous donne ce qu'on veut ? Nos interactions sur le réseau, likes, commentaires, partages, alimentent l'algorithme qui continue de cibler les contenus que vous avez envie de voir pour vous arrimer à la plateforme. À la base, les fils Twitter et Facebook étaient chronologiques. Désormais, l'algorithme pousse les contenus en fonction de nos comportements. Sur TikTok, l'algorithme est imparable. Une enquête en 2021 du Wall Street Journal révèle que moins de 2 heures après votre inscription sur l'application, cette dernière a compris qui vous étiez et ce qui vous plaisait. On va vous proposer plusieurs vidéos sur des thèmes différents, humour, sport, animaux, cuisine. Les algorithmes vont analyser vos réactions. Est-ce que vous regardez la vidéo plusieurs fois ? Est-ce que vous la zappez ? Est-ce que vous la likez ? Un seul choix se propose, passez à la suivante. Il n'y a aucun choix conscient à faire. On peut alors parler de doom scrolling. Le fil est tout simplement infini. Impossibilité technique à visionner la totalité des contenus, c'est un tunnel sans fin. J'ai aussi croisé le terme de rabbit hole. Cela signifie se rendre sur la toile pour regarder quelque chose de précis, ses mails par exemple, et se retrouver 2 heures plus tard à visionner des vidéos de recettes de cuisine aussi rapides que simples à l'écran. En bref, les algorithmes nous connaissent par cœur et savent ce qui nous fera rester sur leur plateforme.
Peut-être même qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes ou nos amis. Qui sait ? Est-ce qu'il y a d'autres dommages concrets ?
Les notifications peuvent être problématiques, car elles sont conçues de manière à devenir des sollicitations prioritaires pour le cerveau. Pastilles rouges, bannières, vibrations, alertes, cela nous détourne automatiquement de notre activité en cours et nous pousse à vérifier notre téléphone alors que ce n'est pas indispensable.
Donc on procrastine, on se coupe d'activités qui nous apportent un cercle vertueux ou qui nous aident. Le temps finit par s'écouler dans le doom scrolling.
Alors comment reprendre le contrôle ? Parce que les dangers sont réels et surtout pour les jeunes qui sont la cible principale de réseaux comme TikTok. Peut-être en étant plus conscient de toutes ces manipulations marketing, en essayant de comprendre les fonctionnements de notre système neurologique du circuit de la récompense, en essayant de créer dans le réel ces shoots de dopamine. On entend pas mal parler en ce moment de digital detox, de détox à la dopamine. Et ce qui est ironique quand on y pense, c'est que des dizaines d'applications nous propose de lever le pied, ou plutôt la main, tout en nous demandant de tenir un journal de nos actions quotidiennes sur leur interface.
Merci Anne-Pauline. Léo Leduf nous parle aussi sur sa chaîne YouTube de techniques pour contrer les génies du marketing. Comme par exemple rendre l'écran de son smartphone gris et donc rendre les applis moins attractives. Plastic soul, yeah. Rabbit hole. Yeah. Rabbit hole. Yeah. Heaven is so cold. I don't wanna go. Father in heaven sleeping. Somebody delete me. Hardy ha ha. Chinese slow and slow. Land again, you can go. Maserati sports car. Rabbit hole. Yeah. Plastic soul. Yeah. So we're rabbit hole. Yeah, rabbit hole. Yeah, yeah. Come. Maintenant, Yann, peux-tu nous parler du lien entre le personnel et les politiques gouvernementales en matière d'addiction ?
Souffrir d'addiction, est-ce une affaire seulement personnelle ? Tomber dans le piège effroyable de la dépendance et de l'accoutumance constitue-t-il un acte purement individuel ? Même s'il est vrai que l'addiction correspond à une histoire personnelle, à une vulnérabilité, à des conflits dans le développement psychique de la personne, on peut quand même voir en lui un fait social. Dès lors, si l'être social est en jeu, on se doit d'aborder la dimension politique de ces troubles.
Comment agit-elle cette dimension politique ?
C'est la fameuse santé publique qu'on a redécouverte avec la pandémie de Covid. C'est l'existence de différentes mesures politiques concrètes sur le cours de nos vies et de notre santé. Par exemple, c'est bien une décision politique quand le gouvernement décide d'augmenter le prix du tabac. Donc, l'État et les collectivités territoriales peuvent, selon telle ou telle volonté politique, intervenir dans les secteurs de la santé, dont la santé mentale. Même si le libéralisme prône le laisser-faire et la non-intervention de la collectivité, l'État social, lui, veut créer des relations de solidarité entre ses citoyens et des dynamiques collectives. Au regard de l'histoire, c'est très souvent la propagation fulgurante de maladies très contagieuses qui pousse les autorités à réagir.
La santé peut-elle être vue autrement ?
Tout à fait. La santé peut être aussi vue comme un bien commun, comme une sorte de capital collectif qu'il faut entretenir. En effet, les conditions sociales, économiques et culturelles d'un pays influent sur la santé de sa population. C'est ce qu'on appelle la santé communautaire. Qu'en est-il pour la santé mentale et les maladies addictives ?
Peux-tu préciser ?
Prenons l'exemple très connu du tabagisme. Être accro au tabac, ce n'est pas une petite dépendance. Très vite, on peut ressentir un besoin impérieux, irrépréhensible, pour avoir sa dose de nicotine. On peut comparer le tabagisme à des drogues dites « dures » comme la cocaïne et l'héroïne. Par rapport à la toxicomanie du tabac, nous avons tous en tête les scandales de l'industrie du tabac. En effet, ces entrepreneurs capitalistes ont sciemment ajouté des cochonneries dans leur production de tabac pour, en tout cynisme, rendre les personnes encore plus addictes. Combattre ces fléaux, c'est bien une question judiciaire et politique, au sens que l'autorité publique se doit de réguler les activités économiques, surtout quand elles organisent, comme avec le tabac, un empoisonnement généralisé. Mais la question la plus importante reste les différentes stratégies pour combattre l'intoxication tabagique. En France et dans les principaux pays occidentaux, la mesure phare est l'augmentation du prix du tabac. En outre, dans l'Hexagone, on a lutté contre l'effet marketing des marques et toute l'identification qu'elles supposent par l'obligation du paquet standardisé, neutre, sans design publicitaire. Il est simple et efficace qui marche. On a aussi, bien sûr, interdit la publicité pour le tabac et bouté hors de tous les lieux publics tous les fumeurs.
Il y a d'autres politiques, comme l'augmentation du prix du tabac. A-t-elle été efficace ?
Permettez-moi d'en douter. Même s'il faut reconnaître que pour les petits fumeurs, 5-6 cigarettes par jour, la mesure a payé, qu'en est-il des gros fumeurs ? 10-20 cigarettes par jour, et les très gros fumeurs, 30-40 cigarettes par jour. Pour y répondre, on peut se permettre de dégager un profil, un idéal type en sociologie, de cette toxicomanie au tabac. Sans caricaturer ni généraliser, on peut affirmer ici que les personnes les plus accros au tabac sont aussi ceux qui souffrent de troubles psychiques. Au-delà des troubles psychosociaux, anxieux et dépressifs, cela peut être aussi d'autres pathologies différentes, comme la dépression sévère, la bipolarité, la schizophrénie ou encore les troubles obsessionnels compulsifs, TOC. En effet, toutes ces maladies rendent plus vulnérables à toutes sortes d'addictions. Le taux de fumeurs chez les malades est beaucoup plus élevé que chez les personnes sans troubles.
Beaucoup d'études ont été réalisées et il y a un lien très fort entre troubles psychiques et consommation de tabac. Sans oublier que cette consommation peut jouer sur les effets des médicaments que le consommateur ou la consommatrice prend peut-être.
Donc, dans ces cas précis, on peut presque dire que le tabagisme est un symptôme de la maladie psychique. Dans cette catégorie de la population, est-ce l'augmentation vertigineuse quand même du prix du tabac qui a réussi à faire arrêter ou même diminuer la consommation de tabac ? Même si nous n'avons pas de statistiques sur le sujet, on peut estimer que la réponse est négative. En effet, ces malades, en plus d'être des gros fumeurs, sont aussi les personnes les plus précarisées. Leur revenu, comparé à des personnes sans troubles, est bien moins élevé. Et encore, heureusement qu'il y a l'AH. Du coup, on augmente sensiblement les dépenses. Un paquet de blondes coûte maintenant 11 euros. Chez des personnes déjà fortement paupérisées.
Pour rappel, le montant maximal de l'AAH, soit l'allocation adulte handicapé, est de 971,37 euros. Et encore, il faut pouvoir y accéder. Comment font, d'après toi, ces consommateurs et consommatrices, Yann ?
Ce que ne comprennent pas les décideurs politiques, c'est qu'une personne très dépendante au tabac et très fragilisée dans sa santé mentale préférera se priver de nourriture, ne pas se chauffer et même mendier que de ne pas avoir sa dose de nicotine. En outre, elle va fumer sa cigarette jusqu'au bout du mégot, aggravant son addiction. Et par souci d'économie, elle va aussi, quand elle fume des roulés, s'abstenir d'acheter des filtres qui réduisent un peu la nocivité du tabac.
Je me demande d'ailleurs si les filtres réduisent vraiment sa nocivité, mais c'est un autre débat. En clinique, à l'hôpital ou dans la rue, je pense que nous sommes plusieurs à avoir vu des personnes récolter des mégots dans les cendriers pour essayer d'en extirper une dernière bouffée. As-tu des éléments à ajouter sur la consommation du tabac ?
Bien sûr, il ne s'agit pas ici de justifier la consommation du tabac, mais de montrer la subtilité de l'addiction au tabac. Le tabagisme n'est pas qu'une question de volonté personnelle, mais aussi l'expression d'un verrouillage psychique, une incapacité à gérer ses émotions. Mais alors, au niveau des politiques publiques, que faudrait-il faire ? Eh bien, comme le dit l'adage populaire, pour ne pas fumer, il ne faut pas commencer. Ainsi, ne faudrait-il pas utiliser tout l'argent obtenu par l'augmentation des prix dans de réelles campagnes de prévention ? Au collège et au lycée, on n'insiste pas assez sur tous les affres du tabagisme. Même si c'est la praxis qui engendre une disposition à fumer, le travail sur la conscience n'est pas sans effet.
Merci beaucoup Yann. En effet, de la prévention dans beaucoup de domaines éviterait des dépenses publiques et surtout des dommages directs par la suite. Il y a aussi, d'après plusieurs études, l'entraide entre fumeurs qui aide pour arrêter. C'est ce qui m'a permis de passer à la vapote, par exemple. Je crois que tu as aussi des actualités sur les infos rennaises en santé mentale de ces prochains mois.
Oui, tout à fait. Alors, deux événements. La première, c'est la plénière du Conseil rennais en santé mentale. Elle aura lieu le lundi 18 mars de midi à 17h. Midi 11h à 17h. Et en fait, ce sera donc le Conseil rennais en santé mentale qui invite tout le monde pour parler de certains sujets. Alors, ce sera sous forme d'ateliers, d'échanges, de rencontres. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par cette plénière, vous pouvez contacter Nicolas Henry. Je peux donner son mail, c'est ni.henry en minuscule @ville-rennes.fr. Et un deuxième événement, comme tous les ans, il y a la semaine d'information sur la santé mentale. Alors là, c'est vraiment l'occasion, c'est un peu dans notre combat aussi, dans notre radio, de vraiment oser parler aussi de la santé mentale. Alors, par rapport aux pathologies, les choses un peu taboues comme la schizophrénie, la bipolarité, mais aussi la santé mentale en général, on a tous une santé mentale. Donc c'est vraiment des journées très très riches. Donc ça aura lieu, donc la CISM, du 16 au 29 mars. Donc débat, cinéma, animation, événements, échanges, rencontres, infos. Si vous êtes intéressé et que vous voulez avoir des infos, vous pouvez aller, donc c'est la Maison Associative de la Santé. Vous pouvez envoyer un mail à la coordinatrice de la CISM de Rennes, donc c'est A en minuscule, hein, a.gendre@maisondelasante.com. Là, il y a un site aussi internet, c'est maisondelasante en minuscule tout attaché.com. Voilà. Événement à ne pas louper.
Merci beaucoup Yann et merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire appel à votre entourage, aux associations locales comme les Amis de la Santé, dont nous avons parlé dans notre dernière émission, ou les Alcooliques ou Narcotiques Anonymes. Il existe aussi des numéros publics et confidentiels tenus par des professionnels de la santé, comme le 3114, en cas de crise ou pensée suicidaire. Pour l'addiction, il y a aussi Drogue Info Service au 0 800 23 13 13, qui dispose d'un chat et plein d'autres ressources suivant votre situation. N'hésitez pas à aller vers des associations, des travailleurs sociaux. Un petit mail, un petit appel peut parfois ouvrir de grandes portes. Pour rappel, en milieu festif, on ne partage pas sa paille ou sa seringue, on espace les doses et on s'hydrate. Surtout, on fait attention au mélange de substances. Des articles ou tableaux sérieux, réalisés par des experts, expliquent très bien à quel risque sérieux vous vous exposez en multipliant les molécules dans votre organisme. Vous pouvez les consulter en ligne ou en parler avec un professionnel. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.
À la prochaine.